penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième et ultime épisode du mois pour l'émission Les Empreintes Musicales. Je suis Franck Amouroux et partage mon micro aujourd'hui avec Emilien Robic, le clarinettiste et initiateur du trio Fleuve. Cette nouvelle tendance de la musique bretonne mène les danseurs des terroirs vers d'autres contrées musicales presque exotiques. La ligne artistique de Fleuve tend presque vers le jazz, le groove et l'électro. Il suffit de participer à un des concerts dès qu'il le sera de nouveau possible pour se rendre compte de toute la formidable énergie presque tribale que le son Fleuve envoie sur scène. Aujourd'hui, dernier rendez-vous donc avec Emilien Robic. Il nous présente la genèse du projet artistique de Fleuve et les grandes étapes qui auront compté jusqu'ici dans le développement du trio musical.
Les empreintes musicales.
Quatrième et dernier épisode de la découverte du parcours d'Emilien Robic. Bonjour Emilien.
Bonjour Franck.
Aujourd'hui, on va essentiellement parler de Fleuve. On a découvert donc dans juste l'épisode juste avant un peu l'idée de départ de la création de ce trio, dont on va dire vous, Emilien, vous êtes un peu le créateur, l'initiateur de ce projet artistique. C'est né de l'invitation d'un musicien claviériste au Fender Rhodes, donc Romain Dubois, René, qui était donc avec votre cousin donc Samson Dayou, était dans ce groupe, était dans ce groupe Kentan. En fait, vous avez commencé un petit morceau ensemble, et c'est l'apparition, c'est l'intervention de ce nouvel instrument, le Fender Rhodes, et sa façon de sonner, en fait, hein, vous a interpellé, et c'est là que vous avez dit, oh, il y a peut-être finalement quelque chose à faire dans un nouveau son breton.
Ouais, ben voilà, donc j'avais des envies, ça me démangeait un peu de faire de la clarinette en étant un peu plus, en mettant l'instrument un peu plus devant dans le son, et puis voilà, mais il fallait trouver des nouvelles idées, et puis cette rencontre avec Romain donc donnait beaucoup d'envie. Il y a un son, une belle brillance et une belle énergie dans cet instrument, et du coup il y avait toutes les possibilités de faire de la musique traditionnelle mais avec une sonorité complètement décalée et hors propos, on va dire, de ce qui se faisait en Bretagne quoi à ce moment-là. On a démarré sur du répertoire traditionnel pour un petit peu s'étalonner quoi, et puis voir ce qu'on pouvait faire, et puis on a réfléchi aussi une façon de d'imaginer comment on pourrait le jouer sur scène quoi. Donc moi j'avais envie que la clarinette soit leader du thème, mais pas que, et qu'on ait une façon de voir les choses un peu différente du cant à discant justement, et de laisser de la respiration à la musique et des silences finalement, d'être pas obligé de tout le temps, quand il y a une phrase mélodique, de tout le temps la répéter finalement, et du coup d'ouvrir d'autres choses, d'autres pistes à la musique quoi. Donc on s'est dit on tente des choses, on laisse des blancs, on laisse partir d'autres thèmes, on compose, on... Et puis finalement, on est arrivé à une esthétique. On a mis un peu de temps quand même à trouver l'esthétique Fleuve. On avait les instrus, mais on n'avait pas forcément la façon de faire encore, quoi. Donc on a hésité au début. Est-ce qu'on fait de la musique électronique ? Est-ce qu'on prend un batteur ? Enfin, c'est des questions qu'on se posait au début. Et puis on a rapidement décidé qu'il fallait vraiment tout passer de l'autre côté, quoi. Donc il fallait pas prendre un batteur. Il fallait faire un truc musique électronique plutôt. Et puis voilà, donc c'est parti un peu à tâtons. Et puis, au fur et à mesure du travail, on a commencé à se monter un répertoire. Donc,
alors le son, alors il a été trouvé comment ? C'est, en pratique, c'était comment ? Vous retrouviez un endroit et alors vous essayiez d'imaginer une harmonie, une rythmique qui fonctionnait, qui répondait à ce que vous aviez en tête alors ?
Bah, moi, je proposais en gros, au départ, je proposais des thèmes qui venaient soit du trad, soit des petits bouts de thèmes que je composais. Et puis, je les envoyais à Romain. Parce que lui, ce qui fait aussi la particularité de Fluff, c'est que Romain Dubois, il ne vient pas du tout du milieu de la musique bretonne. Et il n'y connaît rien du tout. Il n'y s'y est pas intéressé avant Fluff, quoi. Donc, il était complètement exotique dans l'approche de la musique bretonne. Et c'est aussi une grande part du succès du groupe, c'est clair. C'est que lui, il avait sa façon juste d'aborder un thème et de se dire, ok, donc ça, c'est une danse. Donc, ok, comment on regarde la danse ? On va aller regarder les danses, les vidéos, on va regarder comment ça se boutique et chercher où sont les temps forts, où sont les appuis, où sont... Et à partir de là, on a élaboré des pistes, en fait, de musique électronique qui pouvaient accompagner les thèmes, quoi. Donc on a cherché des couleurs, des façons de faire, des sons qui soient un peu organiques, pas que électroniques. Enfin, on a tâtonné beaucoup pour avoir l'esthétique qu'on a maintenant. Et puis voilà, et laisser ce que je disais tout à l'heure, on avait vraiment envie que ce soit une musique dansante. C'était le but de départ. Il fallait qu'elle fasse danser, il faut toujours que ce soit de la danse, mais il fallait aussi que ça raconte quelque chose. Parce que souvent, les groupes de Fesnoz, à l'époque, même dans Canton, on se contentait quand même beaucoup de jouer des airs trad pour faire danser, quoi. Donc au final, c'était pas forcément une musique qui s'écoutait tant que ça. Alors qu'avec Fluff, on avait quand même l'envie d'aller toucher beaucoup de gens, quoi. Donc aussi bien les danseurs que des gens qui pouvaient être simples auditeurs. Et du coup,
quand vous dites raconter, Emilien, de quoi il s'agit ?
Ah ben, il fallait qu'il y ait un peu de sentiment derrière tout ça, quoi. Une sensibilité, quelque chose qui touche les gens, même si on ne danse pas. Donc il fallait réussir à trouver aussi bien dans la ligne mélodique que dans son accompagnement et dans toute la progression d'un morceau. En fait, il faut que ça touche les gens quelque part. Donc c'est vraiment vers ça qu'on a tendu notre objectif, quoi. C'était d'aller faire de la musique de danse au départ, pour en faire quelque chose que tout le monde peut écouter, où tout le monde peut se dire « mais je sais pas ce qu'ils font comme danse, je sais pas ce que c'est comme musique, mais ça me touche, quoi ». Et ça, c'était, dès le départ, c'était quelque chose qu'on avait tous en tête, quoi.
En résumé, c'était l'objectif de départ, c'était de toucher le non-amateur, non-initié au monde du fesnoz, hein.
Ouais, c'était un peu ça, c'était l'envie de s'adresser à un maximum de gens, quoi. En se disant qu'on voulait vraiment faire danser les gens, donc il fallait qu'on reste dans notre milieu culturel qui faisait la base de notre travail, mais par contre, on voulait que ça, musicalement, touchait un maximum de monde. Et du coup, quand il a fallu trouver un nom, pareil, il y a eu un questionnement assez important. Et...
Ouais, alors ce nom, Fluff, au pluriel.
En lien avec la danse, quoi. Donc Fluff, pour nous, ça parle de la danse, quoi, du mouvement, finalement, de ce mouvement d'un fleuve qui se dirige vers la mer. Voilà, il fallait qu'il y ait une sensation de puissance, un peu de force, quoi, de ce qu'un fleuve peut faire. Et puis
au pluriel.
Et au pluriel parce que ce sont les fleuves, quoi. C'est pas en lien, c'est un peu les sources d'inspiration, c'est vraiment pour laisser l'imaginaire un peu, quoi. C'est aussi un peu côté poésie, quoi.
Donc le nom Fluff est créé au bout d'un temps donc de travail un peu intense sur ce que vous avez imaginé par rapport aux danseurs et par rapport un peu à l'ouverture que vous vouliez apporter. Cette musique-là, qu'elle raconte des choses à du monde, à plus grand nombre. Pas forcément breton non plus. Et donc, ce nom Fluff trouvé, vous avez composé donc un répertoire unique, hein, votre propre répertoire. Vous avez créé des morceaux pour après donc l'imaginer, enregistrer un premier CD.
Ouais, voilà. Donc en fait, une fois qu'on avait un peu trouvé notre son et puis le nom, et voilà, en fait, on s'est dit pour se lancer, il fallait peut-être qu'on trouve le moyen de se faire un peu connaître, mais en passant par la base, en fait, quoi, le milieu vraiment trad, mais avec notre particularité, il fallait qu'on arrive à ressortir de là pour après être un peu pour que ce soit un peu validé, quoi, si on veut, cette idée d'être validé par nos pairs, quoi. Donc en fait, avec Romain, on s'est inscrit au concours Duo Libre, au championnat des sonneurs de Bretagne, à Gourin. Et on s'est dit, tiens, mais si on fait ça, pour peu qu'on y fasse une bonne prestation, on va se faire connaître. Et puis on a gagné le concours Duo Libre à Gourin, tous les deux, quoi. Fender Rhodes, clarinette. Donc c'était...
Donc le trio existait déjà, hein, avec Sanson, ouais. Mais vous avez imaginé participer à ce concours quand même traditionnel avec ce Rhodes là, surtout, quoi, ce Fender Rhodes, quoi.
Ouais, voilà, bah, en fait ce concours il est vraiment issu de la pure tradition et des concours de sonneurs, mais c'est la petite catégorie décalée, un peu ouverte, le concours duo libre, quoi. Et bon, ça a été un trio libre, on l'aurait fait avec Sanson, mais là pour le coup c'était duo libre, donc on l'a fait avec Romain à deux, et puis on l'a gagné, quoi. Mais effectivement le trio existait déjà et le répertoire était en train de se monter, et c'était vraiment la petite marche pour se faire connaître, quoi. Donc à partir de là,
donc vous l'avez gagné, hein. C'est en quelle année là?
Oh, je suis nul en
2012, 2013, quoi.
Ouais, voilà, ouais, 2012, je pense, 2013. Ouais. Et puis à partir de là, on des portes sont ouvertes, quoi. Donc on a réussi à convaincre certains gros organisateurs, parce qu'au départ, c'est souvent dans le milieu, les petits organisateurs, ils ont un budget serré, et puis il leur faut une tête d'affiche, et puis peu de place pour les nouveautés, quoi. Donc heureusement, des gros festivals nous ont embauchés assez vite. Voilà, que ce soit...
La formule trio dès le départ, hein.
Ouais, voilà.
Sous le nom fleuve, quoi.
Voilà, que ce soit Yaran, que ou Festival de l'Orient, enfin... On peut quand même dire qu'on a été soutenu d'une certaine manière, quoi.
Les premières dates de Fleuve, c'était dans ces grands festivals-là?
Quasiment, ouais. Ouais. Yawank nous a quasiment ouvert les portes tout de suite. C'est vrai que Gledjegou, sur ce coup-là, il a peut-être eu le nez fin. En tout cas, il nous a dit oui en nous mettant devant le rideau. Tu vois comment ça se passe à Yawank, c'est pas toujours évident. Il y a la grande scène et il y a la partie rideau qui fait 1,50 m de large. Et puis il n'y a pas de balance et tu joues devant 10 000 personnes et c'était une de nos premières dates, ouais. Donc on nous a un peu bousculé, on nous a mis devant le rideau, pas de balance, rien du tout, et c'est parti. Mais ça a bien marché et de là les gens nous ont connus, en fait, quoi.
C'est en plus la vraiment première presta de façon officielle du groupe Fleuve, alors?
On avait peut-être fait une remorque ou deux à droite à gauche, mais effectivement une première presta valable, ouais, c'était celle-là, ouais. Ouais, ouais. Ça a ouvert pas mal de portes et effectivement un public s'est créé petit à petit, et puis on nous a fait confiance sur d'autres festivals et voilà. Donc après tout est allé assez vite, hein. On a enregistré un premier disque 2 ans après, quoi. Après les dates s'enchaînent et effectivement on a pris un peu de galon et ça marche, ça plaît aux gens.
11h40. On va passer du coq à l'âne.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Alors, on va parler un petit peu maintenant, pour résumer, en termes connus qui parlera à tout le monde, c'est un peu le côté un peu show business de Fleuve, le côté un peu structuration professionnelle qui s'est un peu, du coup, rapproché de vous. Puisque cette première date à Yawank par l'intermédiaire de Gledjegou, programmateur, directeur, mais du coup voilà, votre carrière de groupe, de jeune groupe, de jeune trio se lance à cette date-là. Vous jouez alors dans, vous avez assez dès le départ une renommée assez importante, et comment se passe la production de ce premier disque-là? C'est une autoproduction, il est chez Cobb Braise, hein, c'est ça, ouais. Comment ça se passe pour l'enregistrement de ce premier album?
En fait, avec Fleuve, on a quand même la particularité d'être assez indépendant en termes de son, et Romain Dubois, son métier, il est ingénieur du son, en plus d'être intermittent, il a fait ses études là-dedans et il a son studio chez lui à Brest, quoi. Donc on est très indépendant, les répétitions se font chez lui dans son studio, on enregistre chez lui dans son studio, donc on est assez indépendant en fait.
Il a en plus l'oreille d'ingénieur du son, donc en fait le son, le mastering, tout ça, tout ce qui concerne la pratique pour la production d'un CD, vous le faites en autonomie.
On pourrait le faire complètement en autonomie, ouais. Mais pour le coup, c'est pas ce qu'on a fait non plus, mais on a été complètement indépendant sur les prises de son et sur les choix artistiques. Après, on a fait appel à Joachim Olaya, qui est un autre gazier du son, mais dans un milieu de musique électronique, mais pas que, mais en France et dans le monde. Il a notamment fait le son de Bachar Baralife, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un de très pointu, mais qui n'est pas du tout du milieu breton. Et c'est exactement ce vers quoi on voulait aller, quoi. Il fallait que, pareil, en Bretagne, souvent, ça fonctionne en réseau et tout le monde va un peu chez les mêmes pour faire les trucs. Et nous, dans l'idée de nous faire différemment, il fallait qu'on aille chercher ailleurs, quoi. Du coup, ce qu'on a fait aussi sur la personne qui a fait le mix, donc là aussi, elle avait une oreille neuve par rapport à la musique. Et du coup, pareil, à orienter encore un peu plus le son vers autre chose, quoi. Donc voilà, donc c'est cette personne-là, Joachim Olaya, qui a fait les deux mix des deux albums de Fleuve, parce qu'on a aussi voulu fidéliser une équipe autour de ça. Et ainsi que Antonin Volson, qui est percussionniste, batteur dans différents groupes de Bretagne et d'ailleurs, qui lui aussi nous a prêté la main sur les deux disques en enregistrant toutes les parties rythmiques, tout ça. On a de la musique électronique, mais dans notre musique électronique, il y a des sons organiques qui sont joués par Antonin Volson, en fait, qui est percussionniste, batteur, quoi. Donc à lui aussi, on lui doit pas mal de l'esthétique du son Fleuve, quoi.
Donc vous faites quand même appel à un petit peu de réalisateur, on va dire, extérieur. Et alors, ce producteur, alors, Cobrez, la rencontre, vous avez déjà votre propre réseau, Emilien, qui vous permet d'ouvrir quelques portes quand même.
En fait, la Cobrez nous a été fidèle sur les deux premiers albums. Et on le doit là aussi à la Ficellerie, quand même, à Rostronin, l'équipe du Festival Ficelle. Hein. Parce que à l'époque du premier album, ils font partie, à quelques-uns, là, ils font partie intégrante du comité d'écoute, je ne sais plus comment ils appellent ça, la Cobrez, là, mais d'oreilles neuves, en fait, qui orientent un peu les choix que peuvent faire la Cobrez à ce moment-là, quoi. Et donc c'est eux qui vont aller leur dire qu'il y a peut-être un groupe qui s'appelle Fleuve et qui serait peut-être intéressant de produire. Et puis voilà, donc la rencontre se fait, et puis voilà, ça se passe bien, ils nous produisent. Donc nous, on est contents, et on va boire un coup à Spézet dans un bar assez rigolo qui est là-bas.
Les empreintes musicales.
Et alors, pour l'accompagnement de la tournée, comment se passe aussi cette rencontre avec Frédéric Lefloc et sa structure, l'usinerie Production ?
En fait, sur les premières années où Fleuve tourne, on se débrouille tout seul. Voilà, mais on commence à fatiguer parce que ça marche bien. Bon, tant mieux pour nous. Mais du coup, on fatiguait un peu à gérer des contrats. Donc on n'avait plus envie de faire ça. Puis on sentait qu'il y avait quand même un engouement derrière ça qui faisait que ça allait peut-être durer un petit peu. Et que bon, du coup, comment on fait Et du coup, Sanson, il connaissait Frédéric Lefloc de bouche à oreille et tout ça. Et puis on l'a rencontré. Et puis lui, il était intéressé par la musique. Et ça faisait partie de un peu son projet à lui de monter sa structure. Enfin, il avait déjà monté sa structure, mais d'aller trouver des groupes qui ont une proposition artistique qui est un peu décalée par rapport à ce qui existait en Bretagne à ce moment-là, quoi. Et donc voilà, Frédéric Lefloc est botté par le projet Fleuve et nous propose de nous intégrer. Donc en fait, ça s'est passé assez facilement. On lui a laissé les clés de notre agenda, qui était bien rempli. On lui a donné le bébé, puis on lui a dit prends-en soin. Et maintenant, on attend des nouvelles de Frédéric Le Floch.
Oui, là, sauf que là, en ce moment, c'est sûr que tout le monde attend des nouvelles de tout le monde, puisque avec cette période un peu difficile, c'est-à-dire que voilà, il y a quand même eu des dates aussi importantes de fleuves à travers les années, à travers les différentes prestations. Il y a encore eu Yarmouk, hein, l'année dernière, mais aussi des dates, enfin une date qui a peut-être compté un peu plus que d'autres, c'est les Transmusicales de Rennes aussi.
Ouais, voilà. Bah, en fait, du coup, l'agenda était bien rempli dans le milieu du fest-noz en Bretagne, quoi. Donc ça marchait tout seul, on n'avait pas de coup de fil à passer. Tout fonctionnait pour le mieux, mais nous, ce qu'on avait envie, c'était d'aller voir un peu ailleurs et que ça prenne une ampleur peut-être un peu plus importante. Et c'est pas facile à faire quand t'es pas accompagné, parce qu'il faut du réseau, il faut franchir quelques portes qui sont pas toujours faciles à franchir quand t'es dans le milieu amateur. Et voilà, donc avec l'appui de l'usinerie et de Fred Le Floch, on s'est dit que ça pourrait être bénéfique. Et effectivement, c'est vite enchaîné la rencontre pour les Transmusicales. Voilà, donc avec Jean-Louis Brossard. Et voilà, on a réussi à faire une prestation transmusicale. Donc, qui a plutôt marché et qui a permis de nous faire nous rencontrer, nous, à un public qui n'était pas un public de danseurs. Et ça a été un peu une démarche importante dans notre parcours, parce qu'on avait aussi envie de ça, quoi. On avait envie de... Notre musique, c'est de la danse sur le départ, mais c'est aussi... La danse, elle peut se vivre de plein de manières. Donc,
un public de danseurs autre que le public de danseurs traditionnels, des terroirs différents de Bretagne.
Ouais, voilà. On est très attaché à notre public de danse de Bretagne, parce qu'il y a des ambiances de folie et qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Mais on est aussi super content de découvrir un public qui va sentir la vibration autrement, qui va danser autrement et qui va se lâcher d'une autre manière, tout en portant la musique du groupe aussi. Mais... Voilà, donc les Transmusicales sont un sacré tournant dans le groupe Fleuve.
Est-ce que véritablement, pour vous, oui, ça a été aussi une sorte d'étape complémentaire, une ouverture sur le territoire extra-régional, quoi?
Ben oui, parce que en fait, les Transmusicales, au-delà de rencontrer un public rennais qui aurait peut-être pu nous voir aussi à Yaouank ou via les réseaux Internet, et voilà, il y a aussi toute une équipe de programmateurs qui suit les Transmusicales, donc de professionnels. Donc, suite au passage aux Transmusicales, il se trouve qu'il y avait notamment le programmateur de Jazz à Vienne, qui est un festival de jazz de renommée internationale, qui se situe en France. Voilà, et on s'est fait embaucher pour aller jouer notre musique bretonne dans le plus grand festival de jazz de France. Et ça, on l'a fait aussi grâce aux Transmusicales. Donc, en fait, les Transmusicales jouent pleinement leur rôle de passeur.
Médiation. Et alors, voilà, on va peut-être devoir conclure cette émission. Comment avez-vous vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, vous, Émilien Robic, ici, sur la commune du Saint, dans le Nord Morbihan, en cette période de confinement?
Eh bien, pas si mal que ça, étant à la campagne, étant sur un jardin, en famille, je peux dire que j'étais pas à plaindre. Voilà, et puis ça a aussi permis de faire prendre un peu de recul sur la double activité qui remplit bien ma vie, et du coup, ça m'a un peu donné un peu d'air, quoi.
Parce que là, oui, professionnellement, les deux activités, jardinier puis musicien, se sont arrêtées.
Voilà, les deux se sont arrêtées d'un coup. Donc pendant 2 mois, plus d'activité professionnelle, un peu de pratique de l'instrument à la maison, mais pas non plus beaucoup, parce que toute la famille est à la maison, et pas simple. Donc un peu à l'arrêt, mais du coup, de l'envie de revenir, et puis on a quand même travaillé un peu Fleuve, chacun de notre côté, mais on s'est échangé des trucs et puis des envies pour la suite. Donc voilà, les choses repartent maintenant et on a hâte de rejouer, évidemment. Et puis d'ailleurs, ce week-end, on va répéter pour la première fois depuis 3 mois, donc on est content.
Est-ce que vous disiez aussi, pour cette période-là aussi, ça permettait un peu de prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur les choses, sur l'agenda qui se bouscule, etc. C'est, malgré tout, le fait de monter sur scène, de transmettre sa passion, de garder son activité de jardinier, ça n'a pas été remis en question.
Non, ça n'a pas été remis en question, mais cette pause a permis de vraiment une bouffée d'air et puis d'avoir peut-être plus d'envie quand les choses vont reprendre leur cours, en espérant que ça puisse se faire assez vite, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'on se pose quand même des questions sur les dates à venir, parce que tout notre agenda a sauté comme pour tous les groupes. On n'a pas une date de l'été où... Il en reste peut-être une ou deux qui se promènent et on ne sait toujours pas si on va les jouer ou pas. Mais en tout cas, le principal des dates a sauté. Et puis pour la suite, ben, on ne sait pas. On a un agenda qui est encore existant à partir de septembre, mais on ne sait pas. Donc,
et comment vous l'imaginez, vous ?
Je l'imagine. J'espère que ça va reprendre normalement, quoi. J'ai un peu de crainte pour le monde du Fesnoz, un petit peu, parce que. Parce que voilà, ça va, tout ce qui s'est passé, la distanciation sociale, etc., c'est un peu l'antithèse du monde dans lequel on vit en Bretagne, où quand on se donne la main pour danser, on se porte les uns les autres. Voilà, il va falloir retourner vers ça rapidement, et j'espère que tout le monde pourra le faire et voudra le faire. Mais je m'inquiète moins pour ce qui est des gros festivals, l'extérieur, on se touche moins. On danse, on bouge, mais on se touche moins. Mais voilà, j'espère que le monde de la culture en Bretagne va rebondir encore plus haut dans les mois à venir.
Emilien Robic, notre invité du jour, clarinettiste au sein du trio de musique bretonne Fleuve. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous, ciao, kenavo, à bientôt.